Je suis Gonzague de Brunhoff, guide conférencier à Paris et membre de l'équipe de 15 guides conférenciers qui vous propose des conférences sur des sujets extrêmement variés. Je fais donc partie de l'équipe d'art et d'histoire. Et je vais vous parler du vin à Paris, du vin de Paris. C'est séant, Seigneur, c'est séant. Venez, entrez, j'ai du bon vin, j'ai du vin frais. C'est à peu de choses près ce que doit crier le crieur de vin qui se trouve sur cette miniature du XVe siècle que je vais vous décrire. Il se trouve à droite de l'image, sur le seuil d'une taverne, peut-être d'une auberge s'il y a quelques lits dans une arrière-salle. Il a dans la main droite un anape ou un tasse-vin et il a dans la main gauche un pichet. Normalement, ce pichet doit contenir une pinte si l'on se trouve à Paris, c'est-à-dire 0,9 litres de vin. Et il fait la réclame de sa boisson sur le seuil de cette taverne parce que sont en train de s'approcher deux voyageurs. Celui qui est le plus proche du crieur de vin et qui regarde dans sa direction est monté sur son cheval. Il a un curieux chapeau que l'on dirait tressé dans de la paille, avec une plume blanche, un chapeau tout à fait exotique, d'aspect oriental, et il est suivi par un compagnon qui marche à pied un lourd baluchon sur l'épaule. La scène se déroule à la campagne. On le sait car à l'extrémité gauche de cette miniature se trouve un arbre fruitier. Aussi, s'agit-il peut-être d'une foire qui se tient dans ce village une fois l'an et qui attire les commerçants, les visiteurs, qui sont de passage, même si ces voyageurs semblent venir de loin. Le cavalier tend la main vers le verre qu'on lui tend. La loi, surtout en Italie, interdit le crieur de vin d'arrêter par la bride le cheval pour rendre prisonnier le cavalier et le contraindre en quelque sorte à goûter le vin qu'il lui propose. Le crieur de vin se contente de tendre la main avec son hanap en main vers cet étrange cavalier. Au-dessus de la tête de ce cavalier, légèrement en surplomb de la porte d'entrée, se trouve une enseigne parlante, de ce type d'enseigne que l'on voit décorer à partir du XIIIe siècle le dessus des auberges et des autres commerces de Paris. Cette enseigne est une enseigne parlante, qui dit quelque chose du commerce, et plutôt que parlante ici, une enseigne tintante, puisqu'il s'agit d'une très grande cloche, beaucoup plus grande que la tête de ces personnages et que l'on doit entendre de loin pour appeler les visiteurs, les voyageurs à se rendre à l'auberge, peut-être pour dîner de hareng, pomme à l'huile et de se rafraîchir avec du vin rouge ou blanc.
Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursans, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais, Lirac, Médoc, Champagne et Puligny, Montrachet, en cave obscure vieillirai et prendrai de belles années.
Puis un jour une main tremblante doucement vous redressera, essuiera la noble poussière, et vous monterez en silence les escaliers de vieille pierre pour arriver jusqu'au salon. Là vous ferez l'admiration, c'est aujourd'hui anniversaire.
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Pomard, Canton, Clos, Saint-Denis, Givry, Romanée, Conti, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher, pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier.
Et comme un rêve qui s'achève, la soirée se terminera, laissant les rives dans les verres, laissant bien vides les bouteilles et tous ces vieux bouchons de liège. Finiront leur vie de bouchon là, dans le buffet du salon, dans un tiroir. Quelle misère!
Brouilly, Chablis, Bourgogne, grand château du Bordelais, Chinon, Tursan, Sainte-Croix, Dumont, Châteauneuf ou Beaujolais. Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Laissez-nous vous remercier. Laissez-nous. Laissez-nous, laissez-nous, oh laissez-nous, laissez-nous vous remercier.
Le crieur de vin pousse un cri. Et ce cri a été établi au milieu du XIIIe siècle dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, comme tous les autres cris que l'on peut pousser à Paris lorsqu'on exerce tous ces petits métiers si pittoresques, dont presque tous ont disparu aujourd'hui. Alors ce cri est bref, il doit préciser de quel breuvage il s'agit, de sa qualité, il est frais, et cette fraîcheur renvoie à la fois au fait que le tonneau a dû être mis en perce le matin même, pour ne pas que l'on serve du vin vieux, voire du vin aigre, autrement dit du vin aigre, et puis c'est la fraîcheur également de la température d'un vin que l'on apprécie beaucoup au Moyen-Âge, très frappé. Il doit en annoncer le prix, et s'il peut annoncer à la fois la qualité, la quantité, c'est qu'il est assermenté, qu'il a prêté serment auprès du prévôt des marchands, que c'est une sorte de spécialiste du vin, et qu'il est amené à mettre à l'amende l'aubergiste malhonnête qui aurait rempli de moins d'une pinte ses pots de vin ou qui procéderait à d'autres irrégularités dans son commerce. Il travaille main dans la main avec les jaugeurs de vin qui se trouvent sur les ports à l'endroit où l'on débarque des ponts des bateaux, les barriques. Là encore, pour bien jauger ce vin, ces jaugeurs sont toujours au nombre de trois, au cas où il y aurait un conflit entre deux jaugeurs, une tierce personne est là pour faire pencher d'un côté ou de l'autre la décision, le jugement.
La voilà la jolie vigne, vigne, vignon, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne, la voilà la jolie vigne. De vigne en grappe, la voilà la jolie grappe, 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 on le vin. Voilà la jolie grappe, au vin, voilà la jolie grappe. De grappe en rote, la voilà la jolie hotte. Hotte, 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 le vin, voilà la jolie hotte, au vin, voilà la jolie hotte. De hotte en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuve, cuve, on cuve, on le vin. Voilà la jolie cuve, la voilà la jolie cuve. De cuve en presse, la voilà la jolie presse. Presse, 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 on le vin. La voilà la jolie presse, on va. La voilà la jolie presse. De presse en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonne, on tonne, on le vin. La voilà la jolie tonne, on va. Voilà la jolie tonne. De tonne en cruche, la voilà la jolie cruche. Cruche, 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 on le vin. La voilà la jolie cruche, on va. La voilà la jolie. champ vert, le voilà le joli vert.
Véri, véron, véron, le vin, le voilà le joli vert, on va, le voilà le joli vert.
De verre en bouche, la voilà la jolie bouche.
Bouchy, bouchon, bouchon, le vin, la voilà la jolie bouche, on va, la voilà la jolie bouche.
De bouche en ventre, le voilà le joli ventre.
Ventre, 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 on le bat, le voilà le joli ventre, on bat, le voilà le joli ventre.
De ventre en terre, le voilà la jolie terre.
Terre, terre, on le bat, le voilà la jolie terre, on bat, le voilà la jolie terre.
La voilà la jolie vigne.
Vigne, vignon, vignon, le vin. La voilà la jolie vigne, on va. La voilà la jolie vigne. La voilà la jolie vigne.
Les crieurs de vin se tiennent soit sur les places des villes ou des villages, soit au carrefour, soit à proximité des portes ou des grandes artères. Ils doivent trouver à s'embaucher dès avant le lever du jour, c'est-à-dire avant que l'auberge n'ait ouvert. Ils n'ont pas le droit d'être embauchés deux jours de suite par le même tavernier, afin qu'il n'y ait pas de connivence qui se noue entre l'aubergiste et le crieur de vin. Il doit assister à la totalité des opérations, être au cellier au moment où le vin est mis en perce, et être là jusqu'au soir. D'ailleurs, au couvre-feu, on doit cesser de jouer au dé, car c'est une des activités très prisées de ceux qui fréquentent les auberges, et l'on doit cesser la plupart des activités au sein de ces tavernes. Au XVe siècle, les historiens hésitent entre le chiffre de 400 et le chiffre de 700 pour le nombre d'auberges à l'intérieur des murs de Paris. Alors si ce cri doit être efficace, il arrive que l'on ait brodé autour des cris des crieurs de vin. Il s'agit alors de pièces de théâtre, de ces jeux, comme on les appelait. En voici un extrait, il s'agit du jeu de Saint-Nicolas, créé aux alentours de l'année 1200, à Arras, par son auteur, un certain Jean Baudel. Le vin est nouvellement en perse, à plein pot et à pleine tonne, vin discret, beuvant, plein et corsé, sans nul goût de pourri ni d'aigre. Il court sur sa lie, sec et vif, clair comme larme de pêcheur, vin inséparable de la langue. Voyez comme il mange sa mousse, comme on le voit sauter, étinceler, frire. Tenez-le un peu sur la langue et vous en sentirez le goût passer au cœur. Il est courant comme un écureuil dans les bois.
Francis, j'aimais le vin rouge que nous bûmes à Lyon, à tous les coins d'une rencontre, d'un jour et d'une demi-nuit. Francis, j'aimais le vin rouge, oh Dizio, que buvions-nous, sinon la Nice frais et verdâtre au long de ces après-midi. Sur le torse nu de Marseille, oh Dizio, que buvions-nous? Ben, c'était devant un café de chez Mokbel que nous parlions de l'Europe encore lointaine, de l'Australie, de l'amitié. Ben, c'était devant un café et toi, barman du Pacifique, quelle boisson nous offrais-tu? Verse le rhum des capitaines dont les voix ne commandent plus. Et toi, barman du Pacifique, vin rouge à Nice, rhum et café, dans quel bar vous retrouverai-je? Aurant-il le goût que je garde et la saveur de l'amitié? Vin rouge à Nice, rhum et café, vin rouge à Nice, rhum et café.
Alors voilà une fort plaisante manière de décrire un breuvage, mais qui ne concourt pas à l'efficacité de celui qui doit se cantonner à préciser le vin qu'il sert et le prix de celui-ci. Ce sont des petits métiers. Le crieur du vin est souvent un gagne-petit. Il ne peut pas amasser beaucoup d'argent. Aussi lui arrive-t-il d'être, en plus de crieur de vin, crieur de corps. On pourrait être surpris qu'une même personne ait pour métier d'annoncer les funérailles du défunt et de servir du vin. Bien évidemment, ce serait trop hâtif que d'y voir un rapport de cause à effet, et qu'un vin empoisonné aurait trop rapidement mené le buveur de vie à trépas. Il s'agit juste de compléter son activité. Le crieur de corps ou le crieur de mort avait parfois également pour tâche non seulement d'annoncer qui était le défunt, mais d'organiser les funérailles.
Cher cheval de corbillard, ta mort aux dents et au cul, ça ne t'empêche pas d'être hilarde, dire-tu. Quand t'as fini ta journée, on s'en va par les prés, dans le soir quand la rosée est tombée. Tirée des théories de mort, telle est l'histoire de ta vie, on comprendra sans effort, t'aimes la vie. L'autre soir dans un bistrot, tu m'as dit entre deux pots, je suis Socrate incognito, mon coco. Je peux les compter sur mes doigts, les hommes pareils à ce cheval-là, franc parler et courageux, pas un peu. Se déchaussant d'affaires à cheval, il me dit foi d'animal, si se balance sur ton poitrail, t'arriveras rien de mal. Sur cet un peu encombrant, cette amulette pour géant, depuis lors j'ai plus mal aux dents, non, maman. Mais Socrate réincarné, ayant dégarni son pied, mourut d'un coup à la veillée, quelle destinée. Seul j'ai tiré le corbillard, où je l'avais, quel avatar, hissé ça n'est pas une paille, un cheval. Et j'ai conduit dans la terre ce Pégase si éphémère. Non, jamais je ne donnerai mon soulier, jamais.
On peut imaginer, dans l'ombre, derrière le crieur de vin, sur le seuil de cette porte rouge, de cette auberge, l'aubergiste, bien évidemment, même si la miniature ne le figure pas. L'aubergiste accueille dans son auberge des gens qui viennent boire, des gens qui viennent manger, elle peut être ouverte parfois une partie de la nuit, des gens qui viennent jouer au dé, qui viennent jouer aux boules, qui viennent jouer à divers jeux, qui se retrouvent aussi pour le simple plaisir de la discussion, de frayer avec leurs semblables, de quitter des logis souvent étroits, mal chauffés, mal éclairés, parfois pour préparer de mauvais coups, comme il est arrivé à un certain François Villon, célèbre poète français du Moyen-Âge, et qui connaît bien les cabarets de la place de Paris. Il cite entre autres la taverne de la Chasse, la Pomme de Pin, dont on sait que l'aubergiste lui faisait souvent crédit, la taverne du Barillet, le Grand Godet, qui se trouve à côté de la place de Grève, où se rendaient aussi les Écoliers de la Grève, qui est le plaisant surnom que Villon donne à ces écoliers paresseux qui préfèrent aller à la taverne plutôt que d'user leur fond de culotte sur les bancs de l'université. Il est question aussi des notables chanoines de Grève. On est à deux pas de Notre-Dame de Paris. Normalement, ce ne sont pas les mêmes chanoines qui sont sur leur stalle dans le cœur de la cathédrale et qui viennent s'accouder en quelque sorte au comptoir. Ces notables chanoines de Grève sont seulement de francs buveurs, des habitués de cabaret, des piliers de taverne.
Vers humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pieds à dévorer.
Il arrive que le vin conduisent à des débordements, pas seulement si la main de l'aubergiste ou du crieur de vin tremble un peu et que du vin déborde du tasse-vin, mais de débordements sensuels, de débordements de violence. On estime qu'au XVe siècle, entre 9% et 15% des crimes sont commis soit à l'intérieur des auberges, soit plus souvent sur le seuil de celle-ci, la rixe commençant à l'intérieur de la taverne et se prolongeant sur le pavé. Si on y réfléchit bien, on comprend pourquoi aucun des commandements divins n'interdit la consommation du vin. Ça n'est pas tant boire le vin, mais ce sont les conséquences possibles d'un alcoolisme qui peut rendre mauvais, vous faire délaisser vos devoirs de chrétien, vous faire oublier lors de la messe ou de faire vos Pâques, vous faire lever la main, plus souvent que de coutume, sur une compagne ou sur une progéniture. Alors bien des miniatures illustrent ces rixes d'ivrogne autour d'une table ou d'un tonneau qui en fait office et sur lequel sont posées quelques coupes dans lesquelles on voit du vin rouge, du vin rosé ou du vin blanc. La consommation ordinaire de vin pendant une large part du Moyen-Âge, à Paris, oscille entre 2 et 3 litres. Cela peut nous sembler considérable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un plus grand danger que de boire du vin, même en quantité, c'est de boire de l'eau. Surtout si celle-ci est puisée dans la Seine. Depuis que Paris est une cité avec une population considérable, depuis les alentours de l'an 1000, la Seine est une sorte de vaste égout à ciel ouvert. Il est certainement beaucoup plus dangereux de boire un verre d'eau de la Seine qu'un litre de vin, que ce soit du vin des collines aux alentours de Paris ou de vin de plus grande qualité d'autres vallées en France. L'autre raison qui fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de cette consommation considérable de vin est que le vin contient beaucoup moins d'alcool qu'aujourd'hui, entre 7 et 8 degrés. Enfin, cette consommation de 2 à 3 litres est la même pour un homme, pour une femme, surtout si elle a charge de famille, des familles qui peuvent être nombreuses, beaucoup d'enfants mourant en bas âge, et également pour les religieux.
Le vin me souffle, donne-moi la main, mes bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin m'emporte sur d'autres chemins, ferme la porte. L'amour nous va bien. Le vin me brûle, je perds la raison. Le temps recule, il fuit la maison. Le temps s'évade, il reste tes yeux. Le temps s'attarde, rien que pour nous deux. On a tout la nuit, et tant que tu voudras, la moitié de la vie pour s'aimer, toi et moi. Tu t'appelles le soleil, je m'appelle l'oiseau, je nage dans le ciel, tu me brûles la peau. Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin m'emporte sur d'autres chemins. Ferme la porte, l'amour nous va bien. Et dans notre prison, faite de cris de joie, il n'y a plus de saison, plus de peur. Et dans notre désert, où tout n'est que soleil, il n'y a qu'un été qui nous semble éternel. Le vin me saoule, donne-moi ta main, mes bras s'enroulent autour de tes reins. Le vin l'amour nous va bien. Le vin me brûle, je perds la raison. Le temps recule, il fuit la maison. Le temps s'évade, il reste tes yeux. Le temps s'attarde.
Voici un extrait de l'ordonnance des prévôts de Paris de 1397 qui pose le constat des dérives, des violences, des manquements qui peuvent venir aux francs buveurs. Je cite « Plusieurs gens de métier et autres du petit peuple quittent leur ouvrage et leur famille pendant les jours ouvrables, pour aller jouer à la paume, à la boule, au dé, aux cartes, aux quilles et à d'autres divers jeux en divers cabarets et autres lieux publics. Que plusieurs d'entre eux, après avoir perdu tous leurs biens, s'adonnent à voler, à tuer et à mener une très mauvaise vie ainsi qu'il a été reconnu par la confession de quelques-uns de ce caractère. Si le vin peut mener à des débordements de violence, il peut également mener à des excès de sensualité. Des expressions fleuries, un peu vertes, un peu écriardes, nous en disent quelque chose. Mettre en perce le tonneau signifie faire l'amour, comme fouler la vendange. Goûter à un fruit vert et passer un plaisant moment avec une tendre jeune fille. Presser le fruit avant qu'il ne soit mûr est l'invitation à ne pas trop tarder. Mieux vaut la grappe bien mûre d'une femme mariée. Bénissons la belle grappe, trouve-t-on également dans un fabliau. La femme qui utilise cette expression parle du sexe de celui qu'elle croit être à tort son mari. Enfin, je voudrais laisser la parole à Villon, enfin connaisseur, et lui laisser dire le sort qu'il réserve aux taverniers malhonnêtes. Extrait de la Ballade joyeuse des taverniers par François Villon, milieu du XVe siècle. Au grand gibet, leur charogne pendue, et brièvement puisse mourir de goutte, où je requiers et prie que l'on leur boute parmi leur corps force d'ardent barreau, vif écorché, des mains de 10 bourreaux, et puis bouillir en huile le matin. Démembrer soit à 4 grands chevaux les taverniers qui brouillent notre vin. Prince, de Dieu soit maudit leur boyau et crever puisse par force de venin ces faux larrons, maudits et déloyaux, les taverniers qui brouillent notre vin. C'était Gonzague de Brunhoff, guide conférencier pour D'art et d'histoire.
Oh, my God.